podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Frontières des séries. Dans notre dossier du jour, on va parler de Xanadu, une série diffusée sur Arte, donc une série française et pas une fiction grand public. Elle compte 8 épisodes de 52 minutes diffusés au printemps 2011. Séverine Bochem est la créatrice de la série. Elle a auparavant écrit des épisodes de Cœur Océan et Avocat et Associés. On est donc loin du thème d'aujourd'hui. C'est donc sa première création. Jean-Philippe Amard, qui participe depuis à la série Un Village Français, et Pods, alias Daniel Grou, en sont les réalisateurs. Ce dernier est l'un des créateurs réalisateurs des séries qui comptent ou ont compté récemment au Québec, Minuit le soir, qui s'intéresse à trois videurs d'une boîte de nuit, ou 19-2, qui suit les patrouilles de police. Côté acteurs, ce sont des visages peu connus, malgré le fait qu'ils ont déjà beaucoup travaillé à la télévision, au cinéma et au théâtre. Julien Boisselier, Nathalie Blanc et Swan Arlot incarnent les trois enfants de la famille, et Jean-Baptiste Malartre, le patriarche et créateur de l'Empire. Vanessa Demouy fait une apparition étonnante dans le rôle d'une actrice porno sur le déclin. Le titre Xanadu fait référence à la maison de production du même nom, créée par la famille Valadine et qui est dans le creux de la vague. La série suit à la fois la famille et son business. Officiellement, parce qu'Arte a choisi de diffuser les séries maison en première partie de soirée, Xanadu a été annulé à la fin de la première saison. En fait, la série n'a pas reçu de critique dithyrambique. Et on en parle aujourd'hui avec Sarah Sepulcre. Bonjour.
Bonjour.
Nous accompagne Tilman Villette.
Bonjour.
Les critiques ont été partagées, Sarah, et pour cause, la série est plutôt inégale.
Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a à la fois des côtés relativement attachants. Par exemple, je pense à sa capacité à montrer les mutations auxquelles l'industrie du porno doit faire face avec la concurrence internet, mais aussi des côtés plus faibles, et je pense par exemple au manque de rythme global. Je parlerai de certains côtés plus faibles tout à l'heure. Elle a quand même reçu un prix, si je me souviens bien, meilleure série de l'année, mais bref. Alors, Xanadu, c'est quoi cette affaire-là? Xanadu et les Valadines. Xanadu, tu en as déjà touché un mot, c'est un empire, c'est à la fois un lieu, c'est le château où habitent les Valadines et où se tournent les films porno. C'est un business, puisque c'est le nom de la boîte de production de films X de la famille. C'est aussi une famille assez mystérieuse et problématique. Ça fait donc beaucoup de choses à mettre dans les épisodes, et ils vont encore en rajouter, vous allez voir, et ça fait beaucoup de choses à expliquer aujourd'hui. Brossez un peu les personnages, histoire que vous sachiez où on met les pieds. Alex Valadine, c'est le père de tout ce petit monde-là, à la fois la maison de production et les enfants. Il est le patriarche de la famille et c'est lui qui a lancé la boîte et qui la dirige d'ailleurs depuis toujours. Et il a créé cette boîte autour de son égérie, Elise Jess, qui était actrice porno dont il est tombé amoureux et qui va être la mère de ses enfants. Elise est morte et il est remarié aujourd'hui avec Varvara, aussi une actrice qui a aussi arrêté de tourner, plus jeune que lui. Et ils forment un couple un peu improbable au début, mais finalement assez intéressant. Alex a eu trois enfants. Laurent Valadine est l'aîné, qui co-dirige Xanadu aux côtés de son père, puisqu'au début de la série, en fait, les deux autres, pour plein de raisons, sont un peu effacés. C'est l'héritier le plus sûr, en tout cas en début de série. C'est un homme un peu dur et frustré, marié et père d'une fille, qui va tomber dans le coma suite à un coup de feu, qui se déroule très vite. Donc là, je vous spoil pas, à la fin du premier épisode, il se passe quelque chose et il reçoit un coup de feu. Et ça va remettre en question à la fois son avenir, sa personnalité et la dynamique même de ce personnage. Sa sœur, Sarah Valadine, vivait à Montréal avec sa fille Marine depuis plusieurs années. Elle revient à Paris, bien décidée au départ à rester loin de l'entreprise familiale. On sent qu'il y a des problèmes relationnels avec les gens, qu'il y a des problèmes aussi vis-à-vis du porno. Elle a d'ailleurs des problèmes relationnels avec à peu près tout le monde, hein. Ça va être assez vite exploré. Mais elle va finir, malgré elle, par s'impliquer dans Xanadu et par même représenter probablement l'une des meilleures chances de la boîte de rebondir. La pauvre Aladine, c'est lui le troisième enfant, c'est un réalisateur de films d'art, enfin c'est ce qu'il croit, c'est comme ça qu'il se perçoit et qu'il est perçu. C'est un type bizarre, complètement dans son monde, qui veut faire des films comme il l'entend, et c'est pour ça qu'il ne travaille pas pour Xanadu. Le porno commercial, ça ne l'intéresse pas. Il dit à un moment que la boîte de son père, c'est le Hollywood de la bite, et donc lui, ça ne l'intéresse pas du tout, puisqu'il est un créateur en tant que tel. Alors vous l'entendez, je vous l'ai déjà dit, dans cette série, porno, entreprise et vie de famille sont intrinsèquement liés. Et c'est amené par le mystère autour d'Élise, la maman, qui est donc morte. C'est ce qu'on croit en tout cas au début de la saison. Celle d'ailleurs qu'on voit la première, sur des images tournées dans les années 80. C'est une image manifestement d'interview. On ne sait pas trop ce que c'est au début. On va apprendre au fur et à mesure de la saison qu'est-ce que c'est que cette interview, de quoi ça fait partie, etc. Cette interview va débuter chaque épisode et à chaque fois on en saura un peu plus sur elle, sur les drames qu'elle a vécus. C'était une star du porno, donc l'égérie de Xanadu, je vous l'ai dit, de 83 à 89. Et elle a tourné plus de 300 films sous la direction d'Alex Valadine pour le compte de Xanadu à ce moment-là. On sent très vite que quelque chose se noue autour de son personnage, de son absence-présence. Elle n'a pas de tombe parce qu'il n'y a pas de cadavre. Donc ça, c'est une chose qu'on va apprendre dans le fil de la série. Elle semble avoir marqué pas mal de gens dont on ne voit pas toujours le lien avec la famille. Je pense à ce mystérieux Julius qui va d'ailleurs arriver à une exposition qui lui est consacrée armée. Élise, on sent aussi que c'est l'occasion de parler de ce dont les enfants ont hérité, parfois même sans s'en rendre compte ou inconsciemment. Et je trouve que c'est un des thèmes probablement très intéressants dans Xanadu, c'est qu'est-ce que le porno peut faire aux gens et à leurs proches, et ici particulièrement aux enfants des acteurs et des producteurs. Et on l'apprend petit à petit, puisque ça c'est des choses qui sont égrenées petit à petit, parfois même tellement petit à petit que ça reste un peu obscur, je vous l'avoue. Il faut savoir que ces trois enfants-là sont pas équilibrés du tout, notamment dans leur lien au sexe, dans leur lien aux relations sentimentales, au couple, etc. Laurent viole sa femme, Lapo a des relations avec des filles qu'il filme à leur insu, Yaki fait porter des perruques qui ressemblent très fort aux cheveux de sa mère, Sarah n'a pas de vie sentimentale, et on sent donc que le porno, mais aussi les liens qui existaient entre leurs deux parents, Jess, donc l'égérie de Xanadu, et Alex, son créateur, ce milieu les a marqués profondément. Et ça, c'est une chose assez intéressante.
On remarque une sorte aussi d'iconisation dans la mise en image de la série du personnage d'Elise Jess, en fait.
C'est quelque chose qu'on n'a pas connu, nous, finalement. C'est un peu le porno
c'est
d'avant.
C'est une espèce de Brigitte Lahaie, en somme.
Oui, voilà, mais dans les années 70, je pense qu'il y avait vraiment des égéries du porno.
Elle est c'est presque de la Christelle, Brigitte Lahaie.
Elle est parfois même presque de l'ordre du fantasme dans la manière de la présenter, c'est vrai. C'est très troublant, je trouve, hein, parce que c'est une manière très virginale aussi de la présenter, alors qu'on sait que c'est une actrice porno. Donc on est dans des décalages constants dont on ne sent pas toujours le pourquoi, où il y a un mystère. Je ne vous explique pas tout, sinon je n'aurais aucun intérêt de regarder la série pour vous, mais donc voilà.
T'as eu mon message ?
Quel message ?
Le porno pêche. Les types de dessert veulent te rencontrer. Quand est-ce qu'on pourrait fixer une date ? Allô ?
Je vois pas pourquoi j'irais défendre cette merde.
Cette merde ?
Atterri, hein. Avec ce genre de concept bidon que je vais révolutionner le porno.
Oh, ça va, personne t'en demande autant. Excuse-moi, je suis pas certaine que tu sois le mieux placé pour juger.
Tu te prends pour qui, là ? Mon agent ? Ma grande sœur. Les sensations du matin où t'es parti,
elles sont toutes restées gravées.
J'avais quoi, 7 ans ? T'as disparu comme ça, sans dire au revoir.
Je l'ai fait pour maman.
Maman, elle était tarée. Maman, elle était baisée du cerveau. Comment il faut te le dire pour que tu comprennes ?
On l'aurait été à moins, après tout ce que papa lui a fait subir.
Ah, parce que c'est une raison suffisante pour aller voir les flics, c'est ça ? Ok, alors papa, c'est le roi des enculés, je suis d'accord. On n'a pas eu besoin de lui pour se foutre en l'air.
T'as raison, ouais. Enchaîner les tournages de cul sous la direction du père de tes gosses, c'est pas du tout destructeur, non ? Ah, au fait, le porno pêche, t'as raison finalement. Oublie.
Elle était en sursis, maman. Est-ce que tu peux essayer une fois juste de regarder la réalité en face ?
Je crois que la propagande Valadine a bien fonctionné, dis donc. Tant pis. Je me débrouillerai toute seule. Là.
Tu nous parlais en fait de cette conception un peu passéiste avec l'iconisation du personnage d'Elise Jess. On remarque aussi dans Xanadu des nouvelles pratique également des maisons de production de films pornographiques, notamment les Gonzo. On en parle également dans Xanadu.
C'est ce que je trouvais intéressant, c'est que finalement Xanadu est dans le creux de la vague. Les gens, vous l'avez entendu dans l'extrait, aujourd'hui ne veulent plus que du Gonzo, gratos. C'est vrai qu'il y a moyen d'avoir plein de choses gratos sur Internet, mais Alex Valadin, donc le père, n'a jamais voulu évoluer. Il n'a jamais voulu faire des films disponibles rapidement, il ne veut pas du tout toucher Internet, il le dit, respecter les actrices, faire des films et pas des capsules pour Internet. Et forcément, il y a un moment où c'est une impasse. On comprend au-delà de ça que sa vision même du film est complètement dépassée. On sait qu'à un moment, il veut s'y remettre. Et en fait, quand les autres personnes lisent le scénario ou voient son projet, ça ne va pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui n'a plus l'âge. Vous voyez comme tous ces gens qui vont à la retraite et dont tout le monde autour se dit « Ah, il était temps !» Eh bien, on sent que ce monsieur-là, il en est là. Ça ne veut pas dire que tous les enfants ont des bonnes idées, mais effectivement, chacun apporte des pierres et des éléments qui peuvent un peu nous faire comprendre aujourd'hui quelles sont les choses qu'on peut produire dans ce genre d'industrie-là. Laurent, justement, l'aîné, veut faire un porno avec Brandon, qui est un acteur hard, il veut faire un Gonzo, et il voudrait demander à son frère à la peau de le réaliser. Et ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a l'ego de l'acteur et l'ego de son frère, des choses mal négociées, puis ça tourne mal. Et en plus, Alex ne veut pas ce genre de film. Il a laissé la main à Laurent, mais on sent qu'il contrôle tout et qu'il ne veut pas lâcher certaines choses. Sarah, de son côté, elle va chercher à diversifier. Elle propose, par exemple, de faire le clip d'un rappeur. Elle fait des erreurs. Elle engage une actrice que personne ne veut plus parce qu'elle est séropositive, un vieux réalisateur un peu has-been et les gens sont furieux. Mais finalement, elle s'en sort pas trop mal et effectivement, on se rend compte qu'il y a tout un marché, là. Les liens entre le rap et le porno, finalement, sont des liens dont on a déjà entendu parler. Et on voit qu'il y a une porte de sortie qui peut arriver par là. Puis Alex, lui, veut faire du coup un remake d'un film qu'il avait tourné avec Elise à l'époque, à l'heure actuelle, en lançant une nouvelle égérie. Donc lui, il est vraiment dans ses schémas un peu plus anciens. Et il choisit Vanessa Bodhi, qui est une star du X, qui est allée aux USA, où elle a beaucoup tourné, donc une Française qui s'est exportée, qui est connue et reconnue. Malheureusement, elle est en fait en fin de carrière. Elle sent la fin arriver, elle a un peu exagéré au niveau des chirurgies esthétiques, elle exagère sur ce qu'elle prend, elle se défonce. En fait, elle le dit elle-même qu'elle se défonce depuis 5 ans. Et donc, voilà, c'est aussi probablement une impasse. Et j'en profite pour dire que Vanessa Bodhi est jouée par Vanessa Demuy, qui est intéressante dans ce rôle, je trouve, qui parvient à lui donner une vraie épaisseur et pas en faire une espèce de poupée baudruche qui passe à un moment donné. J'ai trouvé ça assez intéressant, avec quelques scènes un peu trash au niveau de ce qu'elle peut faire à son corps. Je ne vous en dis pas plus.
On est loin ici de Classe Mannequin et de Cœur Caraïbe.
Oui, ça c'est clair. Pierre Lapeau, lui, il est toujours dans ses projets obscurs. Il va se lancer dans la production d'une sextape pour une Lolita dont la carrière décline. Je ne sais plus si elle est chanteuse ou si elle est actrice et qui voudrait faire un peu parler d'elle. Ça fait écho quand même avec pas mal de choses qu'on peut entendre aujourd'hui. Puis il va inventer, sans le faire tout à fait exprès, le concept de porno pêche. C'est-à-dire, vous êtes fan de pêche, vous êtes fan de porno, il mélange les deux. Ce qu'on peut finalement décliner en porno bricolage, porno chasse, etc., etc. Donc ça pourrait être un filon.
Et le diffuser la nuit sur TF1.
Par exemple.
Ou sur Chasse et Pêche.
Voilà. Et puis bon, finalement, lui, il a quand même une espèce de créativité naturelle, de vrai amour du porno et de la manière de le filmer qui fait un peu la différence. Alors finalement, des choses vont marcher, des choses vont pas marcher. Et on va voir que certaines choses, Sarah finalement va prendre certaines choses en main. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit le monde du porno parfois au sens plus large. Genre, c'est intéressant et en même temps, je trouve que ça, c'est pas vraiment approfondi. On voit ce que j'ai encore jamais vu dans une série, c'est-à-dire la préparation des acteurs, par exemple, avant une scène. Ils s'enduisent de crème, etc. Là, on le voit. Ça fait un peu bizarre, mais là, voilà, on le voit. Des hommes qui s'enduisent de crème, par exemple. On a des personnages qui regrettent d'avoir été acteurs un jour et qui peuvent pas vraiment effacer ça de leur CV, puisque les films, aujourd'hui, sont disponibles sur Internet. Et forcément, ça pose des questions par rapport aux nouveaux compagnons, par rapport aux éventuels enfants. Donc, ce sont toutes des questions qui sont, je trouve, intéressantes. On a des acteurs dont les parents n'acceptent pas. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ça? On a des acteurs qui finissent par sortir de l'industrie du porno-film et qui sont obligés de faire du live cam dans des conditions qui sont proches de l'esclavage. Et ça, c'est des choses où je me suis dit, ah, si ça existe en vrai, ça doit quand même être assez moche. Il y a des acteurs qui tentent de faire autre chose avec des destins plus ou moins heureux en fonction des cas. On voit les traîtrises, l'espionnage industriel au sein de l'industrie, parfois les liens avec les gens qui contrôlent la technique, comme les images 3D, par exemple. Et tout ça sont des choses qui sont intéressante, mais parfois un peu vite évacuée au profit des vies des enfants Valadin en tant que telles. Et je vous propose d'écouter ici un extrait. Une actrice est morte, et c'est juste après son enterrement, et vous allez entendre la manière dont la mère de cette actrice réagit par rapport à Sarah, et réagit assez mal.
Madame Cottinet, Madame Cottinet, s'il vous plaît.
Vous l'avez détruite. Débrouillez-vous pour vivre avec ça maintenant.
Elle a raison.
Faut que tu te blindes, Sarah. Faut que tu te blindes. Ce boulot, c'est pas la joie tous les jours, c'est vrai. On y meurt plus jeune qu'ailleurs, c'est vrai aussi. Mais les filles n'atterrissent pas dans le porno par hasard. T'es ni leur mère, ni leur tuteur, ni leur ange gardien.
Je vais rien avoir à me reprocher.
C'est bien ce que j'avais compris, rassure-toi.
Alors on voit que tout n'est pas facile dans cette industrie, et pour les actrices notamment. Par rapport à ce que nous montre la série, à ton avis, est-ce que ce n'est pas par moments une imagerie un peu idéalisée aussi du porno?
Alors il y a plusieurs éléments de réponse par rapport à ça, et qui sont parfois nuancés, mais je dirais qu'en conclusion, l'angle qu'ils prennent, qui est de montrer finalement les patrons de ces boîtes, est un angle qui, effectivement, idéalise un peu les choses. Alors d'abord, la série prend le temps de distinguer, ça me semble important, porno et prostitution. Les gens sont des acteurs et des actrices, ce ne sont pas des prostituées. Et à un moment, on explique même qu'elles ne vont pas aller porter plainte, les actrices, je ne sais plus pour quelle raison, je pense qu'il y a une actrice qui se fait violer par un rappeur, justement, parce que les policiers ne sont pas corrects, ils vont partir du principe qu'elles l'ont cherchée, puisqu'en fait, elles sont actrices porno. Et donc, il y a une discussion sur le fait que non, ce ne sont pas des putes et qu'elles sont des actrices en tant que telles. On est loin de cette représentation qu'on peut avoir d'acteurs et d'actrices comme effectivement des prostituées, un lien qu'on fait parfois un peu rapidement. Même dans Art d'ailleurs, où la nouvelle patronne finalement fait évoluer la société, Art qui est une autre série qui a à peu près le même pitch hein, sur une industrie du porno, elle fait évoluer de la société vers une société d'escorte. Donc là, le lien est plus systématique. Alors je vous le disais, c'est une industrie pornographique que je trouve dans un milieu relativement aisé, même un peu bourgeois quand on y réfléchit bien. Ils sont au bord de la faillite mais ils habitent toujours dans un château. Le père n'a aucun problème à donner 50 000 euros à l'un de ses fils. C'était aussi le cas dans Hard si on y réfléchit bien. Donc aujourd'hui la représentation finalement qu'on peut avoir de l'industrie, c'est une représentation où finalement c'est pas si mal que ça. On est quand même loin de personnages comme dans Matryoshka ou comme dans Hung où on a vraiment des problèmes de survie. Et puis surtout, je vous le disais, l'industrie du porno, elle est montrée depuis le point de vue des patrons. Et quand même moins depuis le point de vue des acteurs, même s'il y a des acteurs dans Xanadu. Or, ça ne signifie pas que tout est rose. Par exemple, les enfants Valadin ont beaucoup de mal de s'extirper de ce métier. Ils ont du mal à faire autre chose et à se renouveler. Ils sont avant tout des Valadin, et ça les contraint un peu. Et le milieu dans lequel ils ont vécu les contraint un peu. C'est pire pour les acteurs, puisqu'on voit que Brandon ne parvient pas du tout à s'en sortir. Il fait les chats de coquins, puis après il se prostitue, et puis on ne sait pas ce qu'il devient. On ne sait pas non plus pourquoi ils travaillent dans ce secteur. Ils auraient pu faire autre chose, ils ne semblent pas particulièrement heureux de faire ce boulot. Pourquoi est-ce qu'ils restent là? Alors d'abord, les enfants, on peut se dire que c'est par loyauté vis-à-vis du père. Les acteurs et les actrices, on ne sait pas toujours pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ce métier. Alors à la fois, on a des discours où ils affirment qu'ils sont heureux de ce qu'ils font, que c'est un choix qu'ils ont fait, et par moments, il y a des passages où on sent qu'en fait, le choix, ils n'ont pas eu tant que ça, probablement. Et de nouveau, et c'est cet extrait que je vous ai passé, on n'arrive pas dans le porno par hasard, mais c'est jamais vraiment creusé en tant que tel. Et les personnages ont d'ailleurs des destins divers. Finalement, les personnages Valadin s'accommodent plutôt bien du monde dans lequel ils doivent évoluer. Certains changent les règles du jeu, certains prennent le pouvoir, c'est notamment le cas de Sarah. Par contre, les acteurs et les actrices semblent subir beaucoup plus fort le poids du destin et de ce passé porno qui leur colle au basque, et leurs sorts ne sont pas toujours très enviables. Et donc à la fois, on est dans une image du le porno tel que ça se passe quand on est réalisateur, quand on est producteur, quand on ne doit pas tourner dans les scènes en tant que tel. On sent que certaines choses sont lancées, mais sans qu'elles soient vraiment, vraiment détaillées. Et ça, c'est, je trouve, un peu dommage, parce que je ne veux pas ici dire que tout est moche dans le porno, mais je pense qu'il est bien parfois aussi de mettre le doigt sur des choses qui ne sont quand même pas si roses que ça.
Il y a peut-être aussi ce message de se dire que bah, pour soit devenir une égérie du porno, soit se faire une place très importante dans le milieu, il faut coucher avec le réalisateur ou le producteur.
Mais on remarque aussi que le menu était peut-être un peu gourmand pour la série. 8 épisodes pour expliquer donc, bon, déjà cette industrie du porno, mais également pour suivre le mystère lié autour de la disparition de Elise Jess.
Et j'ajouterais même qu'il y a encore une couche qui est rajoutée, puisque tous ces gens ont des vies personnelles. Et on les montre en train d'avoir des relations. Et en fait, hors vie du porno, hors de l'industrie, rien ne marche. Sarah ne sait pas ce qu'elle veut. La peau tombe sur un amour possible, c'est une masochiste extrême. Laurent ne parvient pas vraiment à se remettre à pied à la sortie de son coma. Alex, est-ce qu'il va, oui ou non, se laisser aller à la vie et à la retraite avec Varvara ? À force de vouloir montrer comment le destin peut peser sur des personnages, ça en devient presque indigeste.
C'est au point de se dire que la série est tellement manichéenne qu'elle dit « le porno c'est mal, regardez tous les dégâts que ça fait sur votre vie » et puis c'est tout.
Non, c'est pas ça, parce qu'on le sent pas comme ça. On sent plutôt comme une atmosphère très défaitiste. On sent pas nécessairement que c'est à cause du porno et parce qu'ils sont dans ce milieu-là, mais on
c'est
a tellement...
C'est un milieu désabusé.
On a tellement, oui exactement, on a tellement chargé les personnages qu'à la fin, c'est indigeste, comme je te le dis. Et alors la troisième génération, c'est encore pire, parce que ces enfants Valadine ont des enfants. Il y a Marine, la fille de Sarah, et Bethany. Bethany est inexistante, elle est là pour être la pisseuse de service qui dit des trucs affreux à sa cousine et à sa mère. Et Marine, c'est un peu plus développé, mais ça reste relativement superficiel. Alors ça aurait pu être intéressant de voir comment une adolescente parvient à vivre dans ce contexte auquel elle n'a pas été habituée, parce que les enfants Valadine sont là depuis qu'ils sont tout petits. Elle arrive de Montréal. Alors au début, on la voit beaucoup en lien avec la mort de sa grand-mère et Julius, puis c'est abandonné. Et puis on va la voir dans la recherche d'identité, parce qu'elle ne sait pas qui est son père. Ça débouche aussi sur une impasse. Et puis elle va avoir sa première histoire d'amour avec un acteur. Et là, ça se termine pas bien. Et d'ailleurs, cette fin de cette histoire me paraît vraiment superflue, traitée de manière très légère. Je vous dis pas, je vous laisserai regarder si vous voulez. Mais ça, par contre, c'est quelque chose qui m'a... un peu heurté, je dois vous avouer. Et à mon avis, c'est la couche de trop. Vraiment, c'est la couche de trop dans cette histoire. Et il y en a même une quatrième. Et je terminerai là-dessus.
Sur 8 épisodes, ils ont réussi à mettre tout ça.
C'est qu'il y a en plus un côté un peu onirique. Si on peut encore l'accepter pour Laurent, parce qu'il est dans le coma, on peut se dire que la sortie du coma, voilà, c'est plus difficile à adapter pour les autres. Les personnages ont régulièrement des hallucinations, d'autres personnages, par exemple. C'est probablement un moyen d'exprimer ce qu'ils sont en train de penser, sans le dire, pour rendre peut-être la série un peu moins bavarde, mais ça devient quelque chose de compliqué. Par exemple, dans le premier extrait que je vous ai passé, vous avez Laurent et son père qui discutent avec une autre personne de l'industrie, Gonzo, pas Gonzo. En fait, ils voient Brandon furieux, en train de lui parler par geste, puisque c'est une hallucination, et de lui faire comprendre qu'il doit prendre l'aval sur son père et essayer de défendre un peu le Gonzo. Ça donne l'impression qu'il est en train de fantasmer sur Brandon. Je crois que c'est quelque chose qui ne va pas. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas du tout acheté. Donc c'est une série, je vous le disais au début, inégale, qui a, à mon avis, des choses qui pourraient être intéressantes et qui pourraient amener à des choses intéressantes, mais c'était probablement trop dense, ils ont probablement voulu trop faire, et ce côté défaitiste, finalement, je pense, a découragé pas mal de gens.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va refermer ce dossier. Merci à vous tous, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine émission.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.